Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur les accords d'investissement et de libre-échange, dont plusieurs, notamment le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, sont actuellement en cours de négociation. Alors que ce type d'accord est souvent considéré comme un moteur important pour la création de nouvelles perspectives économiques, plusieurs experts de l'ONU s'inquiètent toutefois de leur impact adverse possible sur le respect des droits de l'homme. Autre source de préoccupation, le secret qui est maintenu autour des négociations qui précèdent la conclusion de ces accords. Expert indépendant pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable, Alfred Desaias dénonce surtout l'opacité et l'iniquité qu'il constate dans les procédures d'arbitrage en cas de différend entre un État et une société. Pour en savoir plus, Christina Silvero l'a reçu dans nos studios.
Quel est votre principale inquiétude face à ces négociations et ces accords de libre-échange?
Alors, le problème date des années 90. Il y avait une certaine euphorie après la fin, soi-disant, de la guerre froide. Et on pensait, nous avons gagné, nous allons maintenant donner au monde le grand bénéfice du libre-commerce et on va avoir davantage de production et il y aura davantage de travail. Alors ça, c'était l'espoir, l'illusion des années 90.
C'est des bénéfices qui ne se sont pas avérés.
Mais il y a eu un bénéfice. Mais pour les grandes entreprises, pour les transnationales, also pour les investisseurs, ils ont gagné énormément. L'abîme entre les super riches et les pauvres est encore plus profonde aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Lorsque les États, dans les années 90 et dans le début des années 2000, ont accepté des traités de libre commerce, ils s'attendaient à quelque chose de différent. Il y a 3200 traités bilatéraux et les traités bilatéraux ont presque toutes cette procédure d'arbitrage, qui est une procédure vraiment bizarre, totalement séparée, indépendante de la juridiction nationale. C'est une procédure souvent secrète. On ne sait même pas combien de cas il y a eu. Le problème, c'est que puisqu'on a créé une autre juridiction, un arbitrage secret, ce qui arrive, c'est que les arbitres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent ignorer les lois nationales, ils peuvent ignorer les décisions des cours suprêmes nationales, ils peuvent ignorer la constitution des États et ils décident qu'ils vont interpréter le concept d'expropriation. On a le cas de la transnationale française Veolia, qui a une plainte contre l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte a augmenté le salaire minimum. C'est-à-dire que ça, c'est une expropriation. Alors, si le salaire minimum monte, alors comme conséquence, les profits de cette transnationale seront moindres. C'est-à-dire que c'est une expropriation du profit.
Ces accords, en fait, permettent aux sociétés privées qui ont des intérêts économiques de passer outre les lois nationales et la réglementation nationale?
Pas seulement ça, même des décisions de la Cour suprême de plusieurs États. C'est-à-dire, ils s'en foutent de la juridiction nationale. Et le problème, c'est aussi la composition de tribunaux d'arbitrage. Vous savez qu'une heure, d'un avocat coûte 1 000 $. Alors, vous avez un risque capital pour les États, surtout pour les États en voie de développement, qui n'ont pas l'argent pour risquer un procès contre une grande transnationale. La grande transnationale peut payer tous les avocats du monde et le résultat, parfois, et il y a plusieurs telles décisions d'arbitre, que, par exemple, un pays comme l'Équateur ou un pays comme la Bolivie doit payer 50 millions de dollars, 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars et en plus intérêts. Et en plus, il faut payer les avocats. Le résultat d'une telle jurisprudence, c'est que, surtout les petits États, n'osent plus adopter des mesures de protection sociale ou de protection de la santé, du droit de travail, parce qu'ils craignent des procès, en principe, d'une frivolité incroyable.
Alors, à quoi appelez-vous ?
Nous voulons que la CNUSET appelle encore une grande conférence mondiale pour modifier les 3200 traités bilatéraux et pour éviter que des traités bilatéraux et multilatéraux contiennent des arrangements pour un arbitrage séparé et contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques exige que toute affaire civile, par exemple une plainte typique pour compensation, une plainte pour expropriation, soit jugée par un tribunal indépendant et par un tribunal public, transparent, et avec la possibilité de appeler. Et le système qui existe maintenant de la International Center for Dispute Settlement, et il y a plusieurs, le UNCITRAL a aussi un tel système, c'est que les arbitres peuvent décider comme ils veulent. Ils ne sont pas obligés, même pas, à respecter le droit international, ni le droit international coutumière. Alors, un argument que nous faisons, c'est que puisque ontologiquement, l'investissement, le commerce, toute activité commerciale comporte des risques et on peut prendre une assurance pour les risques. La Banque mondiale a un système d'assurance. Vous êtes libre. Personne ne vous oblige à investir dans un pays quelconque. Le risque, c'est une partie du commerce. Parfois, on gagne, parfois, on perd. C'est normal. Mais ils ne veulent pas le risque. Ils veulent investir et avoir une garantie du profit. C'est quelque chose de totalement aberrant. C'est une chose qui viole la souveraineté des États, qui viole l'obligation des États, selon le pacte relatif aux droits civils et politiques, qui viole l'obligation des États, selon le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Comme on dit dans la langue juridique, c'est un contrat contra bonus mores, c'est-à-dire c'est un contrat illégal. C'est un contrat qui va à l'encontre du droit et du droit plus fondamentaux. Alors, les droits plus fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le jus cogens. Et c'est l'article 53 de la Convention de Vienne sur les droits des traités. Et s'il y a un contrat, un traité bilatéral, il y a 3200, et ce traité bilatéral permet ce genre d'ingérence dans les affaires des États, dans ce cas-là, ce traité n'est pas valide, selon l'article 53 de la Convention de Vienne. Mais encore plus important que tout ça, c'est la Charte des Nations Unies. Selon l'article 103 de la Charte, tous les traités doivent se conformer à la Charte. Et s'ils ne sont pas conformes à la Charte, ils sont, dit-on, pas forcément illégaux, mais ils sont déplacés par la priorité de la Charte. C'est un point juridique important, l'article 103. C'est un article très important parce que c'est l'article qu'on peut utiliser pour déclarer la plupart de ces traités comme non conformes à la Charte.
C'est-à-dire que tout pays membre de l'ONU est obligé de suivre la charte avant de suivre ses accords bilatéraux.
Précisément. Et ça veut dire que les États qui ont été condamnés à payer, vous savez que les plus grands arbitrages comportaient 50 milliards d'euros. 50. Alors, c'est le cas Yukon contre la Russie. Et qu'est-ce que vous pensez? La Russie, bien sûr que la Russie n'a pas payé, mais la Russie peut se permettre, si vous voulez, le luxe de dire aux arbitres non, pas l'intention de payer. Mais un petit pays est beaucoup plus vulnérable. Un pays comme la Bolivie, un pays comme l'Argentine, lorsqu'il y a une décision à l'encontre de l'Argentine, l'Argentine se trouve dans une situation assez difficile. Lorsque vous payez à une transnationale 2 milliards d'euros, le résultat, c'est que vous avez 2 milliards de moins pour la santé, 2 milliards de moins pour l'éducation, 2 milliards de moins pour tous les services sociaux qu'un État doit ontologiquement donner. Ce que je propose aussi, c'est une concertation des États et une solidarité internationale entre les États qui ont souffert des décisions aberrantes des ISDS.
Comment est-ce que votre message a été reçu?
Alors, dans la société civile, j'ai un appui de 100%. Mais dans les domaines des grandes transnationales, ils s'en foutent. Ils pensent que nous, les rapporteurs, que nous n'avons rien à dire. Ils ont le pouvoir. Ils se considèrent au-dessous de la loi. Si vous avez une conférence mondiale et les États disent « Alors, il faut reconnaître que ce système a mal fonctionné, a même très mal fonctionné. Il faut le modifier et il faut s'asseoir ensemble et dire « Alors, on va éliminer cette sorte d'arbitrage » ou comme la commissaire Maelstrom de l'Union européenne a proposé, créer une cour internationale pour les investissements, une cour sans arbitre, mais avec de vrais juges, une cour dont la procédure sera totalement transparente et où il y aura une chambre d'appellation. C'est-à-dire qu'on ne se trouvera pas dans la situation complètement absurde qu'un investisseur peut se rendre au ISDS et présenter une plainte contre un État, mais l'État ne peut pas le faire. L'État ne peut pas présenter un cas contre les investisseurs. Ou bien on a une cour internationale avec de vrais juges et avec appellation, ou on élimine carrément le système d'arbitrage et on décide que les investisseurs doivent se soumettre à la juridiction nationale. Ils veulent gagner de l'argent dans pays X, alors ils doivent accepter les lois du pays X. La Cour internationale de justice à la Haye pourrait nous aider, à savoir l'Assemblée générale, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale de la santé, l'Organisation pour l'alimentation à Rome, le FAO. Ils ont la compétence, selon l'article 96 de la Charte des Nations Unies, de référer cette question de la légalité de cette ISDS et de leur arbitrage à la Cour internationale de justice qui va trancher. Et la Cour internationale des Nations Unies va trancher que l'article 103 de la Charte a la priorité et que tous ces traités bilatéraux et multilatéraux doivent impérativement conformer avec la Charte.
C'est avec l'appel d'Alfred Desayas, expert indépendant pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et les podcasts, les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.